I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le fait d'être reconnu comme victime par la justice, voilà, je suis estampillé victime. Voilà, il a été condamné. Je suis pas coupable. Et voilà, moi, ça a été le chemin de ma résilience. C'était le coup d'envoi de ma résilience. Il n'y a plus une miette derrière moi qui est dans mon passé.
Exécuté par qui ?
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussion et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot.
Sébastien Bouet, fondateur, directeur, Colossopie d'argile.
Voilà, c'est bon, pas plus. Pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Salut Sébastien, en tout cas, merci beaucoup de venir dans l'Histoire de Mec.
Mais merci à toi de m'accueillir. On se tutoie, dans le champ sportif, on se tutoie.
Hein. Moi, je tutoie tout le monde, je tutoie tous mes invités, les invités politiques, machin, je tutoie, c'est très important pour moi. J'ai plein de questions à te poser parce que tu as un parcours assez atypique, enfin tu le sais, j'imagine, mm-hmm. et t'as été victime d'abus sexuels quand tu avais entre... 11 ans, enfin de viol. Hein,
de viol, oui, j'allais te couper, il faut appeler un chat.
Tout à fait. Entre tes 11 ans et tes... pendant 4 ans, c'est ça?
Oui, jusqu'à mes 16 ans, ouais. Et peut-être un peu plus même.
Et t'es typiquement l'archétype du mal, n'est-ce pas?
Dans toute sa splendeur.
Ouais, t'es un beau bébé, tu vois. Je sais pas combien tu mesures, 1m85.
82.
Ouais. 82, voilà, tu pèses...
Sans hors taxe.
Et t'as fait du rugby aussi, donc ça aussi on va en parler énormément. Et en fait, t'as réussi, enfin on va parler de ton parcours en gros, mais t'as réussi à te sortir de cet enfer-là il y a quelques années et t'as créé cette association qui s'appelle Colossopie d'argile qui te permet aujourd'hui de pouvoir. Faire plein de choses très très positives en fait d'une manière générale sur les agressions sexuelles dans le milieu du sport et pas que voilà le bizutage etc etc et en fait le milieu du sport étant aussi un milieu extrêmement masculin je crois que ça a des répercussions tout ton travail sur tout ça et en plus tu t'étends là aujourd'hui ton univers hein, t'es en train de créer tu sais le Marvel, tu sais, ils ont le Marvel Cinematic Universe, tu vois, ils ont plein de films aujourd'hui. Et toi, t'es en train de créer un petit peu des différents supports à chaque fois. Donc, t'as créé un bouquin et là, t'as ton bouquin qui a été adapté en
téléfilm.
En téléfilm, quoi. Oui. Donc, avec Eric Cantona, c'est ça qui joue ton,
en plus.
Qui joue ton rôle. Pas mal.
Mais en fait, quand j'ai rencontré le producteur, via le rugby d'ailleurs, entre amis interposés.
Ouais.
Et je lui ai dit, bah, écoute, moi, il n'y a pas de problème, tu peux l'adapter. Au contraire, si j'ai un souhait, je pense qu'il y a un sportif qui peut avoir le même caractère que moi, c'est Eric Cantona. Il a pris note.
Waouh.
Et il m'a rappelé un mois et demi, il a dit oui.
La classe.
C'est la classe.
On reparlera un peu de tout ça, mais... La première question que je pose à tous mes invités, et je t'en ai parlé juste avant de démarrer, t'as fait « Oh là, j'ai besoin de réfléchir ». Mais t'inquiète pas, c'est le cas pour tous mes invités. C'est quoi pour toi être un mec, Sébastien ?
Ben aujourd'hui, c'est, je pense, être un mec, c'est être montré du doigt, puisqu'on essaie... voilà, il y a le mot « yel » qui a fait son entrée dans le dictionnaire sur le sujet que je traite c'est être un prédateur
ouais.
Malheureusement c'est très clivé Alors, je ne vais pas dire que je ne peux pas me satisfaire de ce chiffre, mais toutes les affaires qui sont sorties là dans l'église via l'enquête sauvée, ouais. C'est 80% des victimes sont des petits garçons. Donc voilà, moi je suis en train d'essayer je me bats pour qu'on arrête de féminiser le combat contre les violences sexuelles.
En fait, généralement c'est les mecs
qui
agressent en majorité des filles. Mmh. Mais c'est vrai que le fameux rapport Sauvé là dont on a déjà parlé dans le podcast montre que effectivement les mecs sont également énormément victimes. Mais c'est vrai que c'est très souvent les mecs qui agressent, même s'il y a des femmes qui sont...
Bien sûr, mais il y a des femmes aussi qui agressent. Et moi, je suis en train de me battre sur, justement, désacraliser les campagnes de communication qui sont faites, puisque souvent, c'est la femme qui va être dans la posture de la victime et l'homme, la main qu'on va avoir, ça sera une main d'homme. Et pareil sur les enfants. Donc effectivement, j'ai... sur le sujet que je traite, être un homme, c'est être un prédateur. Après, dans la société aujourd'hui, être un homme, je ne sais même pas comment l'expliquer, tellement que c'est complexe. Mais on a une image de l'homme en ce moment, j'ai l'impression qu'il est quand même assez dégradante et dégradée. Heureusement qu'on est plusieurs à mener le combat que nous menons et montrer qu'on peut faire de belles choses aussi en étant un homme. Mais c'est vrai qu'il y a un petit conflit actuellement qui est un peu déplaisant, notamment avec aussi les politiques et tout ce qu'on veut.
T'as 40 ans, c'est ça?
43, lundi prochain, d'ailleurs.
Joyeux anniversaire en avance. Et t'as la sensation que, en fait, moi j'ai 44 balais, donc tu vois vraiment, on est pas loin. T'as la sensation quand on est, enfin, entre le moment où on est né et aujourd'hui, si tu veux, j'ai l'impression que l'image de l'homme a tellement changé en très peu de temps que c'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir grandi avec beaucoup de modèles de masculinité très positifs, quoi, tu vois.
Ouais, non, peut-être, effectivement, mais les médias se font l'écho aussi de tout ça. On parlait pas de de féminisme comme on parlait aussi. Ça fait 5 ans qu'on entend vraiment.
Depuis MeToo, quoi, à peu près.
Voilà, il y a beaucoup de bruit autour du féminisme et donc les hommes, bien sûr, voilà, qui a une image aujourd'hui qui est assez négative quand même. Un exemple tout con. Alors moi je suis un peu grande gueule, j'essaie de lancer aussi des alertes, mais je me suis retrouvé dans un aéroport où des fois ça m'arrive aussi dans des stations-service. J'ai un petit garçon de 1 an. Quand j'ai voulu aller lui changer la couche, il fallait que j'aille dans les toilettes des femmes.
Ah oui, oui.
Puisque la partie périculture est dans les toilettes des femmes. Et donc, je me suis retrouvé dans les toilettes des femmes avec mon enfant. Et j'ai dû m'excuser. J'ai dit, écoutez, désolé, chez les hommes, apparemment, on n'a pas le droit de changer les fesses. Ça serait l'inverse. Je pense qu'il y aurait déjà des lois, il y aurait déjà des choses, parce que les femmes sont solidaires et vont dans la rue, le poing levé pour gueuler. Les hommes, j'aimerais qu'on se révolte aussi de temps en temps par rapport à tout ça.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'établissements où il y a une pièce à part, en fait. Et c'est quand même la meilleure chose à faire, quoi. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, ce point, sur le côté puériculté. Mais c'est aussi un truc qui fait que, historiquement, c'est les mamans qui y vont, tu vois. Donc,
Mais non, moi, je suis quelqu'un qui change les couches, qui amène mon gamin à la crèche, qui va le chercher.
Mais est-ce que ton papa a beaucoup changé tes couches, par exemple?
Je me rappelle pas.
Ouais. Mais dans l'histoire, tu vois, moi, je sais que mon père a pas beaucoup changé les couches.
Ah, mais moi, je me rappelle pas. Après, j'imagine. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je peux pas te dire, mais effectivement, c'était assez clivé là aussi.
Ça a beaucoup changé depuis quelques années. Oui. Quoi. Parlons de ton histoire, hein, que t'as déjà expliqué des tas de fois. Mais en gros, tu te retrouves quand t'as 11 ans et demi avec. La première agression sexuelle, elle date quand t'as 11 ans et demi, c'est ça, par un ami de la famille.
Le mari de ma cousine, exactement. Ouais.
Donc il fait partie de ta famille, hein, vraiment, qui est
entièrement.
Voilà. Et qui est un mec qui est hyper sympa avec tout le monde, etc.
Serviable, disponible, arrangeant, que tu mets au bout de la table parce qu'il fait rire tout le monde.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le contexte? Et puis après, j'aimerais bien que...
Oui, le contexte, on a une grande famille, très unie. Ma cousine qui rencontre cette personne du village. Et donc, il va être intégré dans la famille. Et petit à petit, comme tout prédateur, il va essayer de gagner la confiance en premier des parents, de sa cible, de sa proie. Donc là, c'était moi la proie. Et mes parents, ils gagnent la confiance. Et mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui, que je rentre avec lui, soit des entraînements de rugby, soit des répétitions de musique, puisqu'on jouait dans le même... dans la même banda, dans le sud-ouest, dans le village, il n'y avait que ça à faire. Ou aller chercher les champignons, ou être chasseur. Donc, il n'y avait pas, voilà, pas grande diversité. Diversité, pardon. Et ben, voilà, c'était un prédateur. Et donc, sans le savoir, tous les vendredis, il me jetait dans la gueule du loup. D'où aujourd'hui encore ce sentiment de culpabilité qui les habite, malheureusement.
Encore aujourd'hui.
Ouais. Encore aujourd'hui, oui. Et voilà, et donc ça a commencé par des attouchements et ça a fini par des viols très nombreux.
J'aimerais bien que tu expliques aussi la gradation qui s'est passée, parce que je crois qu'on a potentiellement, tu vois, des jeunes auditeurs qui sont peut-être eux aussi potentiellement des victimes et des cibles. Tu racontais dans un podcast que la première fois, en fait, il t'a attrapé le sexe, c'est ça de...
Oui, la première fois, je suis sorti de... On avait un rituel, c'est qu'il y a beaucoup de gibier dans les Landes et... voilà, on allait s'amuser avec la voiture, éclairer les animaux... Voilà, c'était les lièvres, c'était les lapins, les chevreuils, les sangliers. Enfin, on avait tout un panel de gibier à voir. Et sur une nuit, je suis sorti de la voiture pour aller uriner. Et là, il est arrivé par l'arrière, il s'est saisi de mon sexe. Il me dit, voyons si c'est vrai ce que m'a dit ton père. Donc moi, j'étais dans un état de sidération et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et oui, parce que ton père m'a dit que t'avais un gros sexe.
Waouh.
Alors que on parlait pas du tout de ça en famille, et donc j'ai rien compris. J'ai pris un uppercut, hein, en fait, émotionnel, et voilà comment ça a commencé. Et après, ben ça s'est enchaîné.
Et alors tu racontes que suite à ça, en fait, il est rentré chez toi, enfin chez tes parents, et qu'il allait boire le café avec tes parents comme s'il n'avait rien
fait. Systématiquement, quasiment, si mes parents étaient encore réveillés. Il m'accompagnait et buvait le café avec mes parents après m'avoir violé. C'était un petit rituel qu'il avait.
Et comment tu vis ça?
Il y en a qui vont fumer nos clopes après avoir fait l'amour, mais lui, après les viols, il buvait le café avec mes parents.
Comment tu vivais ça, toi?
Ah j'étais dégoûté, moi. J'étais piégé, englué dans sa toile qu'il avait tissée autour de moi et je pouvais pas me débattre, je pouvais rien faire, hein. J'étais prisonnier. Prisonnier, alors comment tu vis? Non, tu vis pas avec, hein, tu survis. Aujourd'hui, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir, par contre, et c'est pour ça qu'il faut parler. Et c'est ce que j'incite à faire dès que j'interviens, parler. Mais après, tu vis pas, non, tu mets en place des mécanismes d'autodestruction, ça va commencer par la violence, après l'alcool, dès que tu peux boire de l'alcool, eh bien, tu vas te mettre minable. Après, ça a été le sexe, se prouver qu'on était hétéro et pas homo comme ils voulaient nous faire croire, qu'on était viril, parce qu'un rugbyman, en plus, voilà, l'image qu'on a de virilité qui est exacerbée. Et petit à petit, voilà, t'as tous ces mécanismes qui se mettent en place parce que t'es dans le silence, hein, et ils sont bien ancrés en toi, et pour t'en sortir, ben c'est compliqué. Et donc, tu vas les enchaîner, tu vas les coupler des fois, et jusqu'à ce que ben, tu pètes des plombs à chaque fois. Et moi, c'est à chaque fois la justice qui a mis un frein et un stop à tout ce que je faisais, en fait.
On va en reparler un petit peu après de tes dérives et, comme tu dis, tes comportements autodestructeurs, mais t'avais pas de pote à l'époque à qui parler, parce que tu sais, je crois aussi que c'est un truc qui est compliqué entre mecs, c'est de parler
entre
des trucs.
Entre mecs, on parlait pas de ça, et surtout pas... si ça avait été une femme, la première femme avec qui j'ai couché, elle avait 18 ans, j'avais 13 ans et demi. J'étais fier. Aujourd'hui, ça serait considéré comme un viol, d'ailleurs. Sauf que j'étais consentant. Et dans ce sens-là, on était fiers. Quand t'es violé par un homme, non.
Ouais.
Tu vas pas le dire. Et puis, il faisait en sorte qu'on n'en parle pas, surtout, puisque... ils nous menaçaient. Si tu dis, dis ce que je te fais, ben, je dis à tout le monde que t'es un PD. On disait PD à l'époque.
Ah oui.
Et l'homosexualité, le rugby et le sport en général n'est quand même pas assez compatible.
C'était une honte de...
Oui, la honte, il y a tous les sentiments que tu peux retrouver chez toutes les victimes. Hein. Le sentiment de honte, de culpabilité aussi. Hein. Pourquoi j'y vais? Pourquoi je dis pas non? Mais non, tu peux pas dire non, en fait. Sinon, t'es dévoilé, t'es démasqué. Donc, voilà.
Et l'idée de... À l'époque, en fait, l'idée de que tes potes se disent « Ok, Sébastien, il est pédé », c'était impossible pour toi, quoi.
C'est surtout que j'en étais pas, donc.
Oui.
Surtout que j'en étais pas, donc effectivement. Et j'avais qu'une hantise, c'est que. Parce qu'on était plusieurs à tourner dans ce bois, à essayer de voir du gibier. Et j'avais peur qu'il y ait des potes qui me croisent dans sa voiture en pensant que j'étais consentant. Enfin, des actes que j'étais en train de commettre. Hein, donc. De subir, pas de commettre, apparemment. Mmh. Mais. Et oui, effectivement, je suis pas du tout homosexuel.
Non, mais oui, je me doute bien, mais c'est fou quand même qu'il ait utilisé ce truc comme une honte, quoi.
Mais,
tu vois.
Ouais, ouais, mais parce que tout simplement le rugby aussi derrière. Hein. Et voilà. Et
qu'est-ce qui se passe dans le rugby? Raconte-moi la masculinité dans le rugby, ça m'intéresse.
Bon, la masculinité, ben, c'est des bourrins, hein. Faut pas croire. Hein. C'est toujours faire plus. Hein. C'est quand t'es rugbyman, c'est nos limites, quoi. Et c'est surtout, voilà, enchaîner les conquêtes, raconter à ses copains ce qu'on a fait. Voilà, c'est quelque chose de viril et faire l'intéressant aussi un peu. Donc t'en as quelques-uns qui sont introvertis quand même, mais bon, dans l'ensemble, quand même, on a ce franc-parler et ce rapport au sexe quand même qui est assez, voilà, qui est assez développé, on va dire.
Mais en plus, c'est que de la performance. Je veux dire, c'est pas vraiment ce qui se passe en plus en vrai. Dans...
Et c'est surtout voilà la quantité. Mm. on cochait le nombre de conquêtes que l'on avait. Et après, t'en as qui avaient plus de succès que d'autres. Mais il faut dire que voilà, déjà l'image du rugbyman attire beaucoup.
Ah ok, les femmes, tu veux dire?
Ah oui, c'était bah, fou, surtout si tu commences à être un peu connu. Enfin voilà. C'était rigolo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et toi, tu racontes que tu as mis en place plein de comportements autodestructeurs. C'est en fait, comment, avec le recul, comment tu vis ce truc de te dire, ok, en fait... Je m'aime tellement peu qu'il faut que j'aille là-dedans, quoi, tu vois.
Oui, mais en fait, tu te sens sali, de toute façon. Donc, tu vas entretenir ça, ouais. Mm. Et mais quand je me battais, voilà, j'avais une colère en moi qu'il fallait qu'elle sorte. Hein. Donc, c'était au début sur le terrain, après c'était en dehors. L'alcool, quand tu sors, tu te mets minable. Du coup, tu bois de l'alcool, tu te bats. Donc, c'est... Le prétexte, hein, en fait, ouais, j'étais sous, voilà, je me suis battu, donc non, c'est pas ça, c'est que le mec il t'a regardé un peu trop de travers et que tu supportais pas. Moi je suis pas homophobe, hein, mais il y a trois homosexuels à l'époque qui me cherchaient, qui me draguaient. Je suis allé les voir une fois pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Non, mais rien, tu nous plais. J'ai dit non, je suis pas intéressé. Deuxième fois, pareil, j'ai dit bon, c'est la dernière fois que je me déplace à vide par contre. Et la troisième fois, ben voilà. Ils ont voilà, mais c'était à l'époque, j'avais 18 ans et j'avais surtout pas envie qu'on pense que j'en étais, puisque c'est lui qui nous faisait, il nous mettait ça dans la, il nous manipulait par rapport à ça, et en plus je les attirais, je plaisais aux homosexuels, donc ça a été compliqué cette période.
Comment tu regardes ton comportement aujourd'hui avec le recul, quoi?
Ben en fait, j'ai aucune honte et j'assume vraiment tout ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a fait que je suis Sébastien d'aujourd'hui aussi. Après, ce n'était plus vivable. Le mensonge, les tromperies, c'est quelque chose, ça j'en ai honte, mais voilà, c'est assumé complètement. Mais aujourd'hui, jamais je retournerai pas dans mon passé, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je peux dire merci et je l'ai tatoué sur mon avant-bras. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Ben, ce que je vis aujourd'hui par le biais de mon association, le nombre de victimes que je libère dès que j'interviens est exceptionnel. Et je vis que des belles choses. Et ce tournage qui est la cerise sur le gâteau, parce qu'au-delà de voilà, un film, c'est très bien. Sauf que moi, j'ai beaucoup participé à ce film. Et ça va être un outil pédagogique. Et ça, je veux vraiment que les victimes se reconnaissent et soient reconnues, surtout. Donc nous, on va le faire vivre en plus, ce livre, ce film, pardon. Ouais. Donc voilà, tout ce que j'ai subi, ça, c'est derrière maintenant. Et c'est du passé, mais voilà, ce que j'en ai fait aujourd'hui, ouais, j'en suis fier quand même. Et c'est beau. Donc
c'est intéressant ce truc de. J'assume tout et j'ai honte de rien, et c'est ce qui fait que je suis le Sébastien d'aujourd'hui, en fait. C'est que t'as réussi à reprendre possession de tout ce que t'as subi auparavant, quoi.
Ben, heureusement, parce que sinon, mon pauvre.
Ah non, mais c'est.
Il y en a qui vont vouloir être victimes toute leur vie. Moi, non. Moi, j'ai le sourire aujourd'hui. On peut s'en sortir, mais il faut de la volonté.
Comment t'as fait pour dépasser ça?
Mais la création de l'assaut, déjà.
Ah ouais, c'était une façon de...
Moi, c'est la justice, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Hein, le fait d'être reconnu comme victime par la justice. Je suis estampillé victime. Voilà, il a été condamné. Je suis pas coupable. Moi, ça a été le chemin de ma résilience. C'était le coup d'envoi de ma résilience. Et aujourd'hui, je suis résilient à 200%, même si ça n'existe pas, mais... À 100% sûr, il n'y a plus une miette derrière moi qui est dans mon passé.
L'histoire de ton coming out, en gros, est fou, parce que ça implique un ancien pote à toi, c'est ça, et ta femme, à l'époque.
Alors, j'ai parlé grâce à mon ex-femme,
ouais,
qui a voulu inviter à mon anniversaire, de mes 30 ans, Mathieu, qui lui a dit, écoute, je viens à l'anniversaire de Sébastien. Ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vu. Je viens à son anniversaire qui a une condition, c'est qu'il n'y ait pas ce cricket, parce que c'était son surnom. Et ah bon, pourquoi? Ben, parce qu'il m'a violé. Et voilà comment c'est parti. Et donc elle m'en parle, et le lendemain, je lui raconte tout ce que j'ai subi aussi. Et je vais voir une troisième victime, potentielle, puisqu'on était les trois inséparables, et je lui explique ce qui s'est passé pour Mathieu, ce qui s'est passé pour moi, pourquoi pas toi, mais moi aussi.
Tu savais pas que Mathieu était victime de cricket
pas du
aussi
tout.
À l'époque.
Alors qu'on avait le même comportement, mais Mathieu, quand il a parlé à mon ex-femme, il a dit, mais je suis sûr que Sébastien y est passé parce qu'on avait le même comportement. Et effectivement, j'y étais passé, mais beaucoup plus longtemps que lui.
Ok. Et tu finis par, vous finissez par les, j'aimerais bien que tu me parles aussi de ce moment où tu vas en parler à tes parents, parce que c'est un truc aussi, j'imagine, de te dire, ok.
Ouais.
Maintenant, il faut aller le dire à la famille et aux
parents.
Non,
mais moi, j'avais tellement envie que ça sorte que, immédiatement, moi, j'ai convoqué mes parents avec leur conjoint. Ils sont arrivés le soir. D'ailleurs, c'est une scène très forte dans le film. Ils sont arrivés le soir, et je me suis assis face à eux et je leur ai dit, mais voilà ce qui s'est passé. Et donc là, c'était compliqué pour eux. Pour moi aussi, de les voir dans un tel état. Je me suis retrouvé à les rassurer. mais ils me font de la peine aujourd'hui encore, parce qu'ils sont toujours dans un sentiment de culpabilité. Et après, la famille a explosé. J'ai fait pareil avec tous mes oncles et tantes, donc 10 oncles et tantes, avec tous mes cousins et cousines, ils étaient 18, avec les branches rapportées, comme disait ma grand-mère. Et c'est là où j'ai commencé à voir que parler en famille, je pensais que j'allais avoir du soutien, et en fait. Je suis devenu le caillou dans la chaussure, et donc j'ai perdu toute ma famille. Elle a explosé en plein vol, malheureusement.
Qu'est-ce qu'a dit la femme de Cricket? Qui était ta cousine, donc, c'est
ça? Oui, que je considérais comme ma sœur à l'époque. Mais après avoir parlé à mes parents, ça a été la personne suivante à qui j'en ai parlé. Et quand je suis rentré dans sa voiture pour lui dire que son mari m'avait violé, elle m'a juste répondu « oui, je savais ». Donc ça a été...
Qu'est-ce que ça te fait, ça?
Ah ben là, j'ai de la haine, surtout.
Ouais.
Ça fait de la haine, et je me rends compte que j'ai été pris pour un con pendant des années, par elle. Et, bon,
qu'est-ce qui fait qu'elle en a pas parlé?
Moi, je pense un conflit d'argent, parce qu'ils étaient en train de faire construire une maison, son confort familial. Et elle continuait à coucher avec lui, en sachant qu'il avait violé son cousin. Je lui ai posé la question quand même. Et ouais. Donc ça la gênait pas.
Mais bon, c'est fou quand même.
Oui, c'est fou. Ouais. Mais j'ai eu d'autres coups de poignard de la famille. J'ai eu ça. J'ai eu ma sœur aussi qui a choisi son camp. Hein, donc elle a préféré soutenir ma cousine malgré le fait qu'elle était au courant et qu'elle n'a jamais rien dit, plutôt que de soutenir son frère, entre autres. Hein. Donc,
qu'est-ce que ça te fait dire, ça?
Ça me fait dire qu'on choisit pas sa famille. Et aujourd'hui, je suis en train de la reconstruire. Et donc, je n'ai plus besoin de ces personnes pour vivre. Et les personnes que j'ai dans mon entourage aujourd'hui, c'est moi qui les ai choisies. Et ils me correspondent.
Putain. Ouais. Non, mais je me mets à ta place et je me dis, ok. Parce qu'en plus, j'ai l'idée, hein, tu vois, d'une grande famille très, très soudée. La famille du Sud, quoi, tu vois,
les grandes tablées avec le barbecue à côté, et on envoie des merguez et des cotalos sur la table avec des grands verres de rouge, et on chante, et on danse, et on se prend par les épaules, enfin voilà.
Mais quand il y a un truc comme ça, une adversité pareille, ça explose, quoi.
Et ça a explosé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aide les victimes, et les victimes collatérales, qui sont les parents quand ils ne sont pas les auteurs.
Comment ça?
Les parents. Quand j'aide une victime, j'aide les familles aussi.
Ah, quand ils ne sont pas les auteurs, pardon.
Quand ils ne sont pas les auteurs.
Oui, je me doute. Okay.
Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont auteurs quand même.
Bah oui, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Tu finis par porter plainte donc avec tes trois potes, c'est ça? Et il y a un procès en 2013.
Ouais.
Pour la première fois, si je ne me trompe pas, le mot pédophilie sort.
Je l'ai entendu, oui, effectivement. Je l'ai entendu quand l'avocat de la défense, du coup, moi j'étais à la barre, il m'a questionné et qui m'a dit apparemment vous étiez très demandeur. Donc il a colporté
extrêmement
ce qu'a imaginé, ce fameux cricket. Et bon, là j'ai pris la barre, j'ai.
Tu l'as serré bien fort.
Je l'ai serré bien fort, j'ai soufflé.
Ouais.
Et là, j'ai relevé la tête et je lui ai dit, être amoureux de quelqu'un et très demandeur de quelqu'un qu'on a envie de suicider ou de tuer, je pense pas que ça soit être demandeur et de l'amour.
T'avais envie de le tuer, Cricket?
J'avais imaginé un plan, effectivement, de le suicider, de le mettre sur des rails. Parce qu'une fois que le train est passé, c'était caché, donc...
Oui.
Donc, voilà, les traces... et oui, mais bon, je l'ai pas fait... Et heureusement d'ailleurs. Et en fait, c'est là où la présidente a pris la parole. Elle a dit vous étiez amoureux de Monsieur Boy, Monsieur Hourquette? Oui. On appelle ça de la pédophilie. Donc vous êtes un pédophile. Et c'est la première fois que j'ai entendu, effectivement.
Qu'est-ce que ça te fait, Léa, sur le moment?
Ben non, c'est que reste à ta place, quoi, en fait. Ce que ça fait. T'es pas ce que tu imagines ou ce que tu veux nous faire croire. Hein. Tu es un pédophile. Donc, voilà. Le revers.
Donc, il est condamné?
Ouais, 10 ans. Il en fait 4 et demi. Remise de peine et tout ce qu'on veut. Liberté sous conditionnelle avec un bracelet. Interdiction de venir dans les Landes parce que c'est mon. Ça s'entend peut-être, c'est mon lieu de résidence.
Poil.
Ça réchauffe. Et interdiction de venir dans les Landes, mais j'ai appris qu'il venait tout de même la nuit voir sa mère, apparemment. Et voilà. Moi, j'ai pris 18 ans ferme de silence, sans remise de peine, par contre, c'est ça qui est dommage.
Et t'as été accompagné par... T'as eu un parcours thérapeutique, toi, de ton côté?
J'ai rencontré... Mais moi, en fait, c'est là où la justice, elle doit évoluer. Quand on a un parcours juridique qui est excellent, mais t'es vite résilient. Moi, je suis tombé sur un très bon gendarme, un capitaine de gendarmerie, Badetz, qui m'a même filé son numéro, me dire, voilà, si ça va pas, monsieur Boy, vous m'appelez. Sébastien, il m'a appelé après d'ailleurs. Et un avocat qui a été extraordinaire, un pilier dans ma résilience et qui est aujourd'hui devenu mon parrain.
Un pilier.
Pilier dans ma résidence, ouais, non, mais c'est tellement ça. Une psychologue, victimologue et criminologue qui m'a accompagné également. Et ce procès de la justice. Donc quand tu as un parcours exemplaire, eh bien, voilà, tu peux vite guérir.
Tu as monté cet asso suite à ça aussi, c'est ça ?
Le 29 mai 2013, on est un mercredi, 10h, enfin 22h30, je crois, il est condamné, il part en détention. On fait la fête. Le lendemain, j'écris aux personnes qui m'ont entouré, je leur donne rendez-vous le dimanche. Parce que pendant ce procès, j'ai réfléchi à comment aider les autres victimes et comment protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Et une semaine après, elle était inscrite en sous-préfecture. Donc j'ai créé l'asso. Jusqu'en 2016, j'en ai été bénévole. Et les médias se sont intéressés à mon combat. Et du coup, moi, j'étais parti pour faire uniquement le tournée des clubs de rugby du comité Côte-Basque-Lande, les mercredis après-midi. Et ben vite, TF1 notamment est venu. Le reportage diffusé un dimanche soir dans le journal de Claire Chazal, en plein hiver.
Ça fait connaître.
Donc il y avait, je crois, 8 millions de téléspectateurs. Donc mon combat a dépassé les frontières des Landes. Et là, ça commençait à être dangereux parce que je finissais à Toulouse, par exemple, à minuit. Je rentrais à Dax. Le lendemain au matin à 8h, j'étais sur la route parce que j'étais commercial. Et puis là, voilà, j'ai compris que le bénévolat avait ses limites sur un sujet tel que porte l'asso. Et donc j'ai souhaité professionnaliser mon combat. Donc j'en suis devenu le premier salarié. Et aujourd'hui, on est 22 bientôt salariés.
Énorme. Donc que fait ton asso ? Elle va dans tous les...
Alors, on intervient en prévention et sensibilisation au risque de violences sexuelles, bizutage et harcèlement en milieu sportif, en milieu éducatif. On accompagne et on aide les victimes d'agressions sexuelles, donc un pôle juridique et un pôle psychologique. Et on forme aussi les professionnels encadrant les enfants. Donc à la détection, au signalement, à ne pas se mettre en danger aussi, et voilà.
Quand tu dis pas se mettre en danger, ça veut dire
Mais on fait pas la chasse aux sorcières dans le combat que nous menons, et on fait la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur, pour éviter qu'il se retrouve dans des situations qui pourraient être mal interprétées et être sujet à de fausses allégations, parce que ça arrive. J'interviens aussi aujourd'hui face aux auteurs pour éviter la récidive. Qui 30% d'entre eux ont été victimes quand même. Et on fait de la prévention, mais dès le plus jeune âge. Bon, pour l'instant, on est en CM1 et en CM2, on va essayer d'aller un peu plus bas maintenant, parce que plus vite une parole est libérée, ben, moins le traumatisme peut s'installer, les mécanismes d'autodestruction également, et beaucoup moins d'entre elles aussi, le fait d'avoir parlé, ne vont pas reproduire les actes et donc passer du mauvais côté du sujet. Et voilà, donc
parce gros que chantier. Quand t'es un enfant comme ça, victime d'agression sexuelle, tu finis par croire que c'est ça, c'est comme ça que
la
ça se passe.
Normalité, ouais, bien sûr, et tu peux reproduire surtout. Et dans le champ sportif, on a beaucoup de violences sexuelles commises de mineurs sur mineurs. Alors on n'a pas de chiffres parce qu'il n'y a pas d'études, mais on va en lancer une. Et notamment dans le cadre de bijoutage, qui sont souvent axés sur des agressions sexuelles.
C'est le grand tabou. Je crois que c'est. Enfin, tu vois, t'as la parole qui est en train de sortir autour de la pédophilie, etc. Je crois que le grand tabou d'après, c'est les mineurs qui agressent les mineurs, parce que là, pour le coup, c'est vraiment nous, en tant qu'adultes, à quel point on est incapable de se comporter tellement bien que nos enfants finissent par reproduire les conneries qu'on
non,
fait.
Non, mais il y a plein de choses. Tu peux pas imaginer qu'une femme puisse faire ça à ses enfants déjà. Et imaginez encore moins ce qu'un enfant va faire sur un autre enfant. Donc il faut montrer que ça arrive pour que les gens prennent conscience et soient méfiants du coup.
Avec le recul, comment tu regardes la création de cette agence, tu vois, et de te dire de cette association, c'est une boîte hein, maintenant 22 salariés, c'est pas mal. Quel rôle a cet asso en fait par rapport au Sébastien que t'es aujourd'hui?
Ça a été déjà en moyenne d'être résilient, Mais aujourd'hui, quand je vois, moi, je vendais des pièces détachées de poids lourd.
Et c'était ton métier.
C'était mon métier. J'ai fait ça pendant 22 ans. Et quand aujourd'hui, je vois que je suis consulté par des ministres par rapport au combat que je mène, ben, je trouve ça extraordinaire. Et parce que souvent, le rugbyman, on pense que c'est une brute épaisse. Et voilà, mais non, il y en a un peu derrière la tête quand même, et dedans surtout. Et non, non, moi je suis très fier de ce que j'ai construit, mais surtout de tout ce qu'on peut faire et libérer, surtout le nombre de victimes que l'on libère. Ouais. Aujourd'hui, cette année par exemple, depuis janvier, on a dépassé les 800 interventions et on a sensibilisé ou formé plus de 30 000 personnes depuis janvier, en sachant qu'il y a qui a la pandémie. Donc on a des jauges qui sont diminuées. L'année prochaine, on va faire très très fort, je pense. Et voilà, il faut multiplier ces actions pour libérer la parole et pour éviter, voilà, ce que je viens de dire, qu'une victime reproduise et surtout qu'un traumatisme ne s'implante pas trop.
J'avais lu quelque part que vous aviez libéré 1800 victimes, c'est ça
On est à 5000. Depuis la création de l'ASRO, on a aidé plus de 5000 personnes.
Mais ça veut dire qu'en fait...
En 8 ans, même si aujourd'hui j'interviens beaucoup moins qu'avant, en 2019 j'avais fait 220 interventions dans l'année, j'avais fini sur les rotules.
Oui, j'imagine.
Mais en 8 ans, il n'y a pas eu une fois lors de mes interventions, je n'ai pas eu de victime face à moi. Et ça, je veux que les gens l'entendent. C'est que si on parle de toutes les violences sexuelles, à partir de 6e, dès qu'ils sont équipés d'un portable, c'est 3/4 de la salle, quand je demande dans une classe, c'est 3/4 de la classe qui a reçu le sexe en photo d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est une violence sexuelle. Alors il y en a qui vont le prendre à la rigolade, mais en entretien individuel, à la fin, j'en reçois qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vu. Donc c'est des violences sexuelles. Donc après, quand on parle d'agression sexuelle et de viol, les chiffres baissent, mais il y en a tout le temps. C'est systématique.
3/4 des gamins qui ont reçu des...
Et à partir de 5e, c'est la totalité. Le numérique, c'est bien, mais...
Ça pose des questions, quoi.
Ça pose des questions, en fait.
Et comment tu fais, alors, pour gérer... Tu vois, un gamin qui aurait reçu une photo de sexe ou...
Alors, ça dépend. Bon, des fois, on leur explique qu'il faut bloquer la personne, qu'il faut la signaler, qu'il faut en parler à nos parents. Mais le problème, c'est que c'est pareil. En 6e, combien d'entre vous ont déjà parlé de sexualité avec vos parents? S'il y a 3 mains qui se lèvent, c'est jour de fête. Les parents ne parlent pas de sexualité. Donc, il y a Adrien Taquet qui a lancé les 1000 premiers jours. Bon voilà, c'est un outil qui va permettre aussi aux parents de parler de tous ces sujets, entre autres. Et il faut, je pense que maintenant, il faudrait presque obliger que dès que des parents vont accueillir un enfant, ben, ils aient le mode d'emploi, tout simplement. Alors ces 1000 jours, c'est un peu le mode d'emploi pour être parent, mais il faut que ça soit systématique et que toute les maternités, ben, donne ce petit livret pour que les parents, ben, apprennent par tranche d'âge, ben, comment évoquer des sujets comme les parties intimes, notamment.
Et puis que l'école fasse aussi le boulot, parce que
je crois... L'école, elle a beaucoup à faire, mais ils le font, mais pas assez à mon goût. Donc voilà, l'important, c'est d'avoir des associations qui le fassent aussi, en soutien.
C'est quoi ton objectif avec Colosse au pied d'argile?
Mais 2024, nous, on a... Alors, on n'a pas la prétention d'éradiquer la pédocriminalité, on n'y arrivera pas. Mais apprendre à un maximum de personnes de se protéger de ces prédateurs, dès le plus jeune âge, là, oui, ça, on peut le faire. On a l'objectif 2024, c'est que vraiment toutes les fédérations se sont engagées sur ce sujet. La ministre des Sports, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ouais. En général, il est en mouvement, même s'il est réélu, donc... Mais on a, moi je salue l'engagement de Roxana Maracineanu sur ce sujet qui a fait avancer beaucoup de choses. Les médias aussi qui ont relayé des grands témoignages. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ben, il y a toutes les fédérations qui doivent avoir un référent sur ce sujet. C'est grâce à nous aussi si tous les bénévoles sont filtrés. Grâce à nous parce qu'on a évoqué avec la ministre, c'était un souhait de l'association, un objectif. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, la prochaine étape, eh bien, c'est la formation pour détecter. La formation pour qu'ils détectent, eh bien, tous les signaux que peuvent envoyer une victime.
ça bouge dans les fédés, parce que j'ai toujours un peu l'image, tu vois, que c'est un peu des vieux de la vieille, tu vois, qui sont à la tête des fédés. Mmh. C'est des gens qui ont un certain âge, qui n'ont pas compris que la société avait évolué,
etc. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait de la mixité dans la présidence des fédérations. Parce que justement, il y a des présidents qui sont très cheveux blancs.
Ouais.
et qui ont une approche qui n'est pas la nôtre aujourd'hui sur ce sujet-là. Et qui sont plus dans la protection de leur fédération que dans la protection des mineurs qui sont licenciés. Donc il y a des mentalités à faire changer encore. Mais là aussi, ça évolue. Et si on pouvait avoir la mixité dans la présidence voilà, de ces fédés, ça serait chouette. Parce que les femmes ont quand même une autre sensibilité que les hommes,
bien
en
sûr.
Sachant qu'il y a des hommes qui sont très impliqués
bien sûr.
Sur le sujet.
Oui, non, mais c'est sûr. Et puis ça permet d'avoir une diversité d'une manière générale.
Exactement.
Dans les points de vue, quoi.
Non, mais la gouvernance en général, il faut. Je suis favorable au moins à ce qu'il y ait une mixité dans la gouvernance des fédérations et de toute autre chose. Quoi.
Et au niveau de la fédé de rugby, comment ça se goupille?
Ça se goupille bien. Donc aujourd'hui, on a plus de 40 fédérations quand même qui sont conventionnées. Ouais. On a des territoires aussi, comme la ville de Paris qui s'est engagée avec Madame Versigny sur les 6 ans à venir. Donc, gros chantier. Et la Fédé de rugby, on va retravailler là une nouvelle convention parce qu'elle est venue à terme depuis juin. Et donc, il faut j'ai un prochain rendez-vous avec eux. Mais bien sûr, ils vont continuer à travailler avec nous, entre autres. Et tant mieux.
Comment tu fais pour faire parler les petits mecs quand t'interviens comme ça, tu vois, dans un club où...
Je leur dis que ça m'est arrivé.
Comme ça, direct.
Voilà.
Et ça ouvre...
Alors, pas
ça...
comme ça, pas aussi cash.
Non, mais ça ouvre la porte.
Mais
c'est ça
systématiquement.
Ok.
C'est... Il faut le vivre pour le croire.
Comment ça?
Il faut être présent.
Il faut regarder, ouais.
Pour voir que vraiment, c'est pas des conneries que je raconte. Souvent, on me dit, mais pas à chaque fois quand même. Mais venez avec moi. Et donc, il y a des médias qui m'ont suivi, il y a plein de personnes qui m'ont suivi pour voir qu'effectivement, systématiquement, on a la parole qui se libère duquement quand on aborde ce sujet avec le sourire, en plus. Mmh. Donc, ça donne du courage.
Putain, c'est vraiment génial ce que tu fais.
Merci.
Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé causer, sur lequel je t'ai pas amené?
Non, tu as été complet, je pense.
Ok.
Non, juste moi, je sais pas si c'est, tu veux conclure, mais malgré 4 années de viol subi, 18 années de silence et d'autodestruction, je suis la preuve aujourd'hui qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut parler. La honte doit changer de camp, on n'est pas coupable, on est victime.
Mais tu l'incarnes à merveille, là, avec ton grand sourire, les gens le voient pas, mais...
Non, on me le dit souvent, c'est impressionnant de la façon dont t'en parles apaisément. Hier j'ai participé, je suis membre de la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, qui a été mise en place par Adrien Taquet et présidée par Monsieur Durand et Nathalie Mathieu. Et dans le public, il y avait beaucoup de personnes, effectivement, qui étaient en colère. Mais la colère, ça s'entend pas, en fait, parce que ça crie et on est souvent hors sujet. Moi, je suis apaisé aujourd'hui. Je me suis accroché il y a pas longtemps avec une association féministe qui était dans la colère. Et comme je lui ai dit, moi, j'ai pas eu besoin de montrer mes couilles pour faire avancer les lois. Les ministres, j'y vais, je suis sur le terrain tous les jours. Aujourd'hui, depuis janvier, on est plus de 800 interventions et donc 30 000 personnes à sensibiliser. Donc on sait de quoi on parle. Et voilà, une fois je fais un topo de tout ce qu'on voit sur le terrain, je prends rendez-vous avec le ministre et je lui dis, ben voilà ce qu'on a vu. Je l'ai fait dernièrement avec le ministère de l'Agriculture parce que j'interviens sur des maisons familiales et rurales,
okay.
Sur des apprentis du coup, qui ont fait un décrochage scolaire et qui se retrouvent dans ces structures. Il y a pareil, c'est des quantités de victimes énormes à chaque fois qu'on y intervient. Et je leur ai dit, ben voilà, j'ai fait tant d'interventions dans vos MFR, voilà ce qui se passe. À chaque fois, c'est que ça libère. Donc grâce à la MFR et nos actions, on va libérer. Eh bien, on a un plan d'action, voilà, qui a été mis en place parce qu'ils veulent contribuer à cette libération de parole. Donc voilà, j'ai jamais eu le contrôle des bénévoles, j'ai jamais eu besoin de montrer ma poitrine pour faire avancer la... Je m'éblique, comme disait l'autre. Donc voilà, il faut savoir pour être dans ce combat, il faut être en paix avec soi-même.
Mais et... c'est ça, j'allais dire, t'as quand même, enfin, tu les comprends, ces gens qui sont en colère. Parce que
je les comprends, j'en ai été moi aussi.
Voilà, c'est ça, j'allais dire, comment se manifestait ta colère à l'époque? Et comment t'as fait pour la transformer?
Non, mais moi, c'était de la haine envers tout le monde.
Ouais.
Ça se transformait par la violence. J'ai jamais tapé de femme, attention. Mais c'était les hommes que je tapais. Je me bagarrais beaucoup. Donc c'était voilà comment je.
Mais alors cette colère-là, comment t'as fait pour la transformer en un truc positif? Justement.
Mais moi j'ai été reconnu par la justice. Et c'est ça qui est différent de beaucoup d'autres victimes. Et
ça t'a apaisé ça vraiment pour.
Voilà, tu passes. Voilà, t'es pas coupable, t'es victime. Et cette reconnaissance m'a permis de venir sur le chemin de la résilience et d'en être complètement. Puisqu'aujourd'hui, j'interviens face aux auteurs. Donc, si j'étais pas en paix avec moi-même, je pourrais pas intervenir face à eux. Pas face aux miens, parce que ça, je le supporterais pas.
Oui.
Mais voilà, la colère ne fait pas avancer. Donc, j'ai plein de victimes qui souhaitent, encore hier, j'en ai 2-3 qui sont venus me voir. On veut intégrer ton association pour intervenir avec toi. Il n'y a pas de souci, au contraire, on a besoin. Mais tu vas intervenir, tu vas recevoir. Et elle m'a dit, ouais, c'est vrai que quand je reçois des messages sur Facebook, ouais, mais ça me fait trop de mal, ça me rappelle. Ben, voilà, tu ne peux pas intervenir parce qu'en fait, si tu n'as pas la bonne posture face à l'enfant qui va venir te parler ou si tu vas te mettre à pleurer parce que ça t'a fait revivre ce que tu as subi, si tu n'es pas prête à ça... Ça va être une charge traumatique trop importante pour toi aussi. Donc, voilà, il faut être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres et pour pouvoir faire ce métier tous les jours.
C'est fou, je suis très admiratif de de ta vision que tu as pour ton asso, quoi. C'est vraiment. Non, mais c'est vrai
c'est ma seconde femme. Hein.
Tu changes la vie, vraiment. Tu changes la vie de plein de gamins, quoi. Tu vois, c'est fabuleux ce que tu fais.
Thierry Ardisson j'étais sur son plateau il y a un petit moment. Il a eu cette phrase, vous êtes utile.
C'est important pour toi aujourd'hui?
D'être utile pour les autres, ben oui. Ma démarche est altruiste. Et c'est ça qui est formidable, c'est que quand je vois une personne qui arrive crispée face à moi et qui repart avec le sourire, ben voilà, j'ai gagné mon combat. C'est ça qui est beau aujourd'hui. Ouais, encore ce matin, tu vois, j'étais au téléphone avec une gamine de 13 ans que j'ai sensibilisée en Corse il n'y a pas longtemps. Et qui m'a écrit sur Instagram. Parce qu'elle a été victime à 5 ans d'un membre de sa famille. Elle n'en a jamais parlé. Et là, je lui ai proposé de faire plein de choses pour en parler à sa mère. Et là, pendant l'interview, j'ai vu qu'elle m'a écrit. Et elle a rédigé la lettre pour annoncer à sa mère parce qu'elle n'arrive pas à lui dire. Sans mes conseils, elle serait restée dans le silence.
Bravo Sébastien, vraiment.
Mais c'est gentil.
Merci pour ton temps.
C'était vraiment... non, merci à toi, c'était fort agréable.
Je mettrai plein de liens vers ton asso.
On partagera aussi.
Et le fameux téléfilm, il sort quand alors? Tu as déjà une
date? Il est livré fin février à TF1 et après c'est eux qui décident.
Ok.
Mais ce téléfilm, moi j'ai beaucoup participé à côté d'Eric Cantona qui s'appuyait sur moi beaucoup sur le tournage. Et
t'étais sur le tournage, hein,
ouais, j'étais consultant. Ouais.
C'est assez rare pour le préciser, quoi.
Ils avaient jamais vu ça. Françoise Fabien, pareil, elle dit mais c'est extraordinaire que tu sois à nos côtés comme ça. Et je réglais quelques silences, quelques mots à rajouter par-ci par-là qui font que ça sera encore plus juste, même si c'était déjà très juste. Et ils m'ont fait revivre mon plus beau jour de mon passé.
Okay.
Et ça a été très émouvant pour moi, ça a été le procès.
Ouais.
C'est Julie Moulier qui l'a fait, l'actrice, qui a mis une énergie exceptionnelle dans son rôle. Et ça a été une journée très difficile, mais... Oh combien ravi de la revivre parce que c'était vraiment le plus beau jour de mon passé.
Merci beaucoup Sébastien.
Merci. Adi Chats, comme on dit chez nous dans le sud-ouest.
Adi Chats.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du Succès.